بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous l'avions promis, nous allons reprendre le cours selon le programme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va poursuivre avec la lecture du livre Kitabu Adda والدواء. أليس كذلك؟ نعم. La fois passée, nous avons lu la question qui avait été posée à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et qui est à l'origine de la rédaction de ce livre. Avant de commencer le cours, j'aimerais partager avec vous ma joie aujourd'hui, parce que au début j'avais ce livre, mais aujourd'hui j'ai celui-ci. En fait, ça c'est le livre avec lequel j'avais étudié ce livre chez Cheikh Abdourazak Al-Badr, et qui comporte les fawaïd que j'avais notés, c'est-à-dire les enseignements que j'avais tirés des assises du Cheikh et quelques annotations importantes. Donc aujourd'hui, en fouillant les livres, j'ai retrouvé ces livres et j'ai rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis fier pour cela. Je voulais partager cette joie avec vous. Avant de commencer le cours, j'aimerais rappeler aussi de quelque chose que Cheikh Abdourazak Al-Badr Hafidahullah avait rappelé à l'introduction de ce cours. Il avait considéré le fait qu'un jeune soit en contact avec ce livre comme étant l'un des immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ce jeune. Il avait rappelé que lui aussi, il avait pris connaissance de ce livre quand il était jeune, et que ce qu'il avait appris de ce livre l'a beaucoup aidé. Et si vous me permettez, je vais lire exactement ce que le Cheikh il a dit. قال حفظه الله نعم قال يا أيها الشباب من نعمة الله عليك أن يكون هذا الكتاب في يدك في وقت مبكر من عمرك أو جن فمن بينفد الله سبحانه وتعالى أن فيتوا سكسليفس وأنترتما أنت que tu entres en contact avec ce livre très tôt dans ta vie. Takra'uhu bita'ammulin wa tatadabbarahu bi'ana. Et que tu lises ce livre avec attention et que tu médites doucement lors de ta lecture de ce livre. Fa innahu bi'idhnillahi sayakunu lahu al-atharu al-azim 'alayka fi hayati. Car par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre aura un impact immense dans ta vie. Donc, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait immense que nous soyons là aujourd'hui en train de lire ce livre. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce à quoi le Cheikh a fait allusion dans sa parole se concrétise dans nos vies. Et que les enseignements que nous allons tirer de cet ouvrage puissent nous accompagner tout au long de notre vie. قال المؤلف رحمه الله مجيبا على سؤال السائل. L'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله, en guise de réponse à la réponse du questionnaire, avait dit, et pour ceux qui n'étaient pas là, on ne perd rien en réalisant la question. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح تقي الدين أبي محمد بن أبي بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله ما تقول سادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من عآن مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. Dans la question, le questionnaire dit, que disent les maîtres, les savants, les guides de l'islam, qu'Allah les agrée tous d'un homme souffrant d'un péché, dont il sait que s'il persiste à le commettre, ruinera sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Cet homme cherche pourtant par tous les moyens à se débarrasser de ce mal, mais le désir ardent de le commettre ne cesse d'augmenter. Quelle est donc la solution pour s'en débarrasser? Et par quels moyens y parvenir? Qu'Allah fasse miséricorde à quiconque apporte son aide à une personne éprouvée. En effet, Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Renseignez-nous, qu'Allah vous récompense. Voilà les questions qui furent posées à l'imam Ibn al-Qayyim et qui a été à l'origine, comme nous l'avons dit, de la rédaction de ce livre. Et comme vous allez le constater, cher Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans sa réponse à cette question, a été large et généreux. Et cela confirme ce que son enseignant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avait dit. « Qala ahlu sunnah ». أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. Les gens de la Sunna sont les gens qui maîtrisent le mieux la vérité. Ils maîtrisent la vérité mieux que qui que ce soit et ils sont miséricordieux envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala mieux que qui que ce soit. Quelqu'un qui a posé une question et la réponse à cette question a fait l'objet de tout un livre. Cela atteste de la miséricorde que les savants de la Sunna ont envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأجاب رحمه الله قائلا الحمد لله أما بعد. Il a donc répondu en disant louange à Allah. Suite à quoi? Ici, Cheikh Islam Ibn al-Qayyim رحمه الله n'a pas été long dans l'introduction. Parce que quand on écoute la question de celui qui avait posé la question, on se rend compte qu'il ne faut pas être long dans l'introduction et qu'il faut commencer à lui proposer une solution. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب داء الداء برئ بإذن الله وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذا يؤم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. Dans cette introduction, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a commencé par citer un hadith authentique rapporté du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Hadith dans lequel Abu Hurayrah radiallahu anhu rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait dit « Il n'est pas de maladie qu'Allah ait fait descendre sans avoir fait descendre également son remède. » Jabir ibn Abdullah rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute maladie a son remède quand ce dernier est appliqué au mal la maladie guérie par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Usama ibn Shariq rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de maladie qu'Allah ait fait descendre sans avoir fait descendre son remède. Certains le connaissent, d'autres l'ignorent. Sous une autre formulation, sous une autre version, ou alors dans une autre version, il est dit: il n'est pas de maladie qu'Allah ait fait prédestiner sans avoir prescrit le remède, exception faite d'une seule maladie. Les compagnons demandèrent: quelle est-elle, ô messager d'Allah? Il répondit: la vieillesse. Après avoir cité ces hadiths, l'imam al-Qayyim, rahimahullah, a dit: ces maladies concernent les maladies spirituelles du cœur et de l'âme, les maladies physiques et leurs remèdes. J'ai commencé par lire tous les hadiths parce que tous les hadiths parlent de la même chose et du même thème. Et vous voyez ici que cette introduction relève de la sagesse de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et de la maîtrise qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordée de tels sujets. Parce que quand quelqu'un qui a posé un problème que celui que nous avons entendu du questionneur, qui a exprimé sa situation telle que nous l'avons suivie, vient avec un tel problème, quand on commence par ce genre d'introduction, ça rassure le malade. Quand on lui fait comprendre qu'il n'existe pas de maladie sans remède. Parce que dans la question, il a fait comprendre au cher qu'en réalité, il était proche du désespoir. Parce qu'il a dit qu'il a tout essayé. Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donc commencé par ses hadiths pour rassurer ses malades et lui faire comprendre qu'en réalité, il n'existe pas de maladie sans remède. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ici, nous fait savoir que le remède, la maladie est le remède auquel fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allusion dans ce hadith. Ce sont les maladies du cœur, de l'âme et du corps. Les maladies du cœur, de l'âme et du corps. Et les maladies physiques et les maladies spirituelles. Toutes ces catégories de maladies entrent dans le hadith. Il n'existe pas une maladie parmi ces catégories de maladies qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre sans faire descendre avec cette maladie son traitement. Et dans une autre verset, il dit « Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ». Ceux qui le savent, le savent. Et ceux qui l'ignorent, l'ignorent. Qu'est-ce que cette parole devrait susciter en nous? La recherche, hein? Des traitements. Puisque nous connaissons déjà les maladies, et nous avons la certitude, puisque la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité, il ne parle pas sous l'effet de ses passions. Tout ce qu'il dit est vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons des maladies, que ce soit les maladies liées au cœur, à l'âme ou au cœur. Et nous savons, nous avons la ferme conviction qu'il n'existe pas de maladie sans traitement. Mais que, en réalité, il y a deux catégories de personnes pour ce qui est de la maîtrise de ces traitements, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire que c'est que cette prise de conscience devrait impliquer automatiquement, c'est le fait de se lancer à la quête du savoir, de la connaissance de ces traitements. Chercher à maîtriser, à connaître ces traitements. Donc, ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a voulu que ce malade et chacun d'entre nous, parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit, la situation qui a été exposée par le questionneur est une situation qui nous concerne tous. On se rend compte en lisant cette question que le questionneur a posé là un problème qui est le nôtre, qui est celui de chaque croyant, plus particulièrement de cette époque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, cette introduction redonne espoir à tous les malades, que ce soit ceux qui souffrent des maladies liées au péché ou les maladies physiques. Maintenant, l'imam Ibn Qayyim, après avoir cité ce hadith qui suscite ce que nous avons dit, a continué en disant فروى أبو داود في سننه إلى هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن. Et ces maladies auxquelles le prophète a fait allusion dans le hadith, cette maladie englobe toutes les maladies relatives au cœur, à l'âme et au corps humain. وأدويتها, de même que leur traitement. Il n'existe pas de maladie sans traitement sur la terre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des maladies, a créé les maladies avec leur traitement et il a fait descendre les maladies avec leur traitement. وَهَذَا يُفِيدُنَا شَيْئًا. Et ça nous renseigne sur un point important. C'est que quelle que soit la taille d'une ambiguïté, parce que les ambiguïtés relèvent des maladies. Non? Quand on classe les ambiguïtés, on les classe dans la catégorie des maladies relatives à l'âme. Ça veut dire que quelle que soit la taille de l'ambiguïté, c'est lui qui maîtrise le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, ne pourra être touché par cette ambiguïté et sera à l'abri de cette ambiguïté. قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'ignorance une maladie et de la demande des savants, le questionnement des savants en cas d'ignorance, un traitement. بل قال العلماء إن الجهل أم الأدواء. Les savants sont même allés jusqu'à dire que l'ignorance, c'est la mère de toutes les maladies. L'ignorance, c'est la mère des maladies du cœur, des maladies spirituelles et des maladies du corps, de toutes les maladies. Parce que si nous nous exposons aux microbes, c'est parce que nous ignorons ces microbes. Nous exposons aux maladies parce que nous ignorons ces maladies et la conséquence, non, que peuvent engendrer ces maladies. Regardez comment est-ce que les hommes se sont comportés lorsque le Covid est arrivé. Lorsqu'on a donné des prescriptions, les gens ont respecté. Parce qu'ils ont compris le danger du Covid, ils ont vu comment ça ravageait les gens. Pourtant, le Covid n'est pas la maladie la plus dangereuse. Le Covid n'est pas la maladie la plus dangereuse. Parce que la pire des choses que le Covid puisse faire à un être humain, c'est de le tuer. On ne peut pas aller en enfer parce qu'on est mort. La mort ne conduit pas en enfer. Mais ce qui conduit en enfer, c'est quoi? Ce sont les maladies de l'âme. Ce sont les péchés. Donc, le pire des péchés, la pire des maladies, ce sont les maladies relatives à l'âme, les maladies spirituelles. Ça veut dire que si, après avoir vu les dégâts qu'a causé le COVID-19, nous avons pris un certain nombre de mesures pour être à l'abri des méfaits du COVID, il est paradoxal qu'on soit conscient des conséquences peuvent engendrer les péchés sans prendre des mesures pouvant nous permettre d'être à l'abri de ces conséquences. وَهَذَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Et ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ أَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَةٍ. Afin que périsse celui qui adoptera le périssement avec toutes les connaissances. Et afin que réussisse celui qui adoptera le chemin de la réussite avec toutes les connaissances. Ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'une maladie qui ne peut pas faire plus que tuer, non, arrive et que nous adoptons un certain nombre de mesures pour être à l'abri de ces méfaits, alors que nous souffrons des maladies liées à l'âme qui nous détruisent sans prendre des mesures. Ça veut dire que nous n'avons pas compris les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous incite à méditer sur ces signes, sur la création, sur le fonctionnement du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui méditent. Wa ala kulli hal al-jahlu umul adwa. L'ignorance, c'est la mère des maladies. Et chacun d'entre nous se doit de changer de posture et de sortir de la posture des ignorants. Parce que si l'ignorance est la mère des maux, ça veut dire que les hommes les plus mauvais sont des ignorants. C'est pour ça que le premier principe sur lequel s'établit la foi, c'est quoi? C'est l'ilm. L'ilm. C'est pour ça que le premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de la shahada, la ilaha illallah, min shurutihi, bal huwa shartul awwal, al-ilm. Parmi les conditions de ça, validation de son authenticité, il faut absolument la science qui renie l'ignorance. Une science qui renie l'ignorance et qui annule l'ignorance. Ça veut dire que le musulman n'est pas ignorant. Et que cette science est la science obligatoire parce que c'est la science qui fait, qui élève le croyant. Vous comprenez pourquoi on dit que l'ignorance est la mère des maux. Quel est le plus pire des maux? Non? Quel est le plus pire des maux? Le pire des maux. C'est quoi le pire des maux? Al-Kufr, Al-Shirk. Al-Kufr, Al-Sakaralik, la mécréance, c'est le pire des maux. Très. Méditez sur ce que je viens de dire. La première condition de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la science. Et le premier pilier de la foi, en Allah, le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman, an tu'mina billah. C'est le fait que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Or, pourquoi en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? D'après les tests de la révélation, il faut automatiquement passer par la science. Qala Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Hada huwa al-Iman billah. Apprends et sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Et méditez ici que j'ai traduit par fa'alam, par ensuite apprends et sache. Parce que beaucoup de gens traduisent fa'alam par sache. Alors que quand on regroupe les textes de la révélation, on se rend compte que fa'alam ici veut dire apprends et sache. Parce qu'islamiquement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître sans passer par la science, par l'apprentissage. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم اداه الحصر انما نعم c'est une expression qui marque la restriction. Le prophète dit انما العلم بالتعلم, on acquiert la science que par le biais de l'apprentissage. Donc ça veut dire que fa'alam veut dire apprends et sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. C'est pour ça que c'est cet apprentissage qui nous élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous fait sortir de la posture de ceux qui sont au degré le plus bas, qui dépassent même les animaux. Allah ta'ala wa tini wa zaytoun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Nous avons créé l'homme sous la forme la plus harmonieuse. Ensuite, nous l'avons rabaissé au plus bas niveau. Nous l'avons rabaissé au plus bas niveau. Après avoir créé l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissé au niveau le plus bas. Et ce n'est que par le biais de la foi qu'il élève les gens, qu'il élève ses créatures. Hein? Qala Allah ta'ala, yarfa illahu alladhina amanu Après nous avoir abaissés au degré le plus bas, il élève ceux qui ont cru. Ils le font sortir de cette posture à travers la foi et la connaissance. Yarfa'illahu alladhina amanu wal ladhina utul ilma. Or, nous avons compris à travers l'explication que j'ai donnée que le premier principe sur lequel est établie la foi, c'est quoi? C'est la science. C'est-à-dire que l'élèvement ou alors l'évolution de notre foi sera fonction de notre connaissance, sera proportionnelle à notre connaissance. Et c'est même pour ça que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala véritablement sont les savants. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tout ceci pour confirmer ce que nous avons dit, que la science est la clé du succès et que l'ignorance est la mère des maux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science utile. Après avoir fait cette déclaration, l'imam Ibn al-Qayyim, comme tous les savants de la Sunna, a cité un hadith sur lequel il s'est appuyé pour nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'ignorance une maladie et de son traitement le fait de poser les questions aux savants. Farawa Abu Daoud fi sunanihi min hadith Jabir ibn Abdullah qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تخدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. Dans ce hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu dit: nous étions sortis lors d'un voyage avec, dans un groupe. Nous avions entrepris un voyage avec des gens dans un groupe. فأصاب رجلا منا حجر. Et l'un de nous a été blessé par une pierre. Fashajjahu fi ra'sihi. Donc il a reçu une pierre au niveau de la tête qui l'a blessé. Et la blessure était profonde. Thumma ihtalama. Et ensuite, il a rêvé. La personne dans son sommeil a rêvé. C'est-à-dire que il a fait un rêve et au cours du rêve, il a éjaculé. Et automatiquement, il fallait donc qu'il fasse ce qu'on appelle al-ghusl. Fasa'ala ashabahu. Il a donc posé le problème à ses compagnons. Faqala, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Vous pensez que j'ai une excuse pour ce qui est du délaissement de ce bain rituel? Parce que quand on médite sur le hadith, on se rend compte que ici, le tayammum n'était pas encore légiféré, ou alors c'était légiféré et ils ignoraient. Non? Ils ignoraient l'existence du tayammum. Donc, ils ont, ou alors ils ignoraient que le tayammum enlève aussi la grande saleté. Donc, il a posé la question à ses compagnons. C'est-à-dire le blessé a posé la question à ses compagnons. Pensez-vous que j'ai une excuse dans le délaissement du tayammum? Puis-je, adopter une autre formule? Qalu ma najidu laka rukhsa. Nous ne te trouvons aucune excuse. Ou anta taqdiru ala al-ma, alors que tu as la possibilité d'utiliser l'eau. Fartasala famat. Il s'est lavé et il est mort. L'eau l'a tué. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont informé le prophète Mohammed. Jabir dit, lorsque nous sommes rentrés, le prophète sallam a été informé de cela. فقال قتلوه قتلهم الله. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Allah sa'alu islam ya'alamu. Est-ce qu'il ne leur revenait pas de poser la question aux savants quand ils ignoraient? Et quand le prophète a dit Allah sa'alu islam ya'alamu, c'est-à-dire, ne leur incombait-il pas automatiquement de poser la question aux savants quand ils ignorent? N'est-ce pas là la voie établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ. Le traitement de l'ignorance, c'est le fait de poser des questions à ceux qui savent. وَانْتَبِهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Méditez bien sur ce hadith, faites attention. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. Il lui aurait été suffisant de faire le tayammum ou alors de protéger l'endroit blessé, la blessure, n'am, avec quelque chose. ثم يمسح عليها. Ensuite, il le suit juste au-dessus. Et par la suite, il lave le restant de son corps. Taïb. J'ai dit que nous devons démarquer une pause de méditation sur ce hadith. Awalan ya ikhwa. Dans le hadith, il est dit que ce compagnon avait posé la question. Il est dit qu'il avait posé la question. Mais même à lui, le prophète sallam n'a pas trouvé d'excuse. Parce qu'il a posé la question à ceux qui ne savent pas. Mais comme il est la victime et il est déjà mort, le prophète s'en est pris à qui? À ceux qui l'ont tué. Le prophète a dit, Kataluhu, qui l'ont tué? Fantabihu. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre le poignard. Causer la mort, c'est tuer. Causer la mort, sciemment, c'est tuer. Même involontairement. Maintenant, la question de est-ce que la personne qui a causé la mort involontairement a une excuse ou non est une autre question. Mais je veux qu'on soit d'accord à partir de ce hadith que poser un acte négatif, même involontairement, du point de vue islamique, est une faute. Et le fait que la personne soit inconscient des conséquences de son acte ne rend pas, ou alors ne rend pas l'acte condamnable en islam, un acte incondamnable. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le plus important, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas la façon dont nous voyons les choses. Mais le plus important, c'est ce que dit la charia. C'est que ce que nous faisons s'accorde avec les textes de la révélation. Qala qataluhu qatalahum Allah. Ils l'ont tué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élimine. Ala sa'alu idlam ya'alamu. Ne leur incombe-t-il pas de poser la question à ceux qui savent? Alors qu'ils sont ignorants, alors qu'ils ignorent. Ça c'est la première leçon que nous tirons de ce hadith. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ceux qui avaient voulu faire le bien parce que la fatwa qu'ils ont délivrée, est-ce qu'ils voulaient désobéir à Allah? Donc le plus important, ce n'est pas vouloir obéir à Allah. Mais c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre vouloir obéir à Allah sans obéir à Allah et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché le salut, c'est le fait d'obéir à Allah et non le fait de vouloir obéir à Allah. C'est pour ça que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala farraqa bayna al-irada. Non? Wa bayna as-sa'i wal-fi'l. Qala wa man arada al-akhirah. وسأ لها سعيها كتريد الآخرة يا أخي ولا يكون سعيك سعي الآخرة. Quiconque veut l'au-delà et emprunte la voie qui permet de concrétiser ce vœu. Wahuwa mu'min, tout en étant croyant, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala récompense les efforts. Donc, si tu veux le bien, fais les efforts, sans que tes efforts suivent les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il se peut même que tu sois châtié. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut faire le bien, il est important qu'on se rassure que ce qu'on pense vouloir être le, que ce qu'on pense être le bien du point de vue islamique est effectivement le bien. Donc, il y a une différence entre vouloir le bien et faire le bien. On peut vouloir le bien et faire le mal. Et la bonne intention, comme je l'ai toujours dit, ne transforme pas un acte non légiféré en acte légiféré. Ne transforme pas quelque chose de détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en quelque chose d'aimable. C'est pour ça que ceux qui ont toujours traduit le hadith, innamal amalu bin niyat, que certes, les actes ne valent que selon l'intention. En sous-entendant que si on a une bonne intention, l'intention vient transformer l'acte en bon, en bonne action. Alors que ce n'est pas comme ça le hadith. Innamal a'malu. Al-a'mal al-alif alif wa la'bihi. C'est-à-dire les actes légiférés par Allah ne valent que selon l'intention. Donc il faut que ton acte, l'acte posé, soit un acte légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est qu'à ce moment que ton intention vient rendre valide l'acte. Mais si l'acte n'est pas légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors si l'acte est un acte détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le fais avec une bonne intention, ta bonne intention ne vient pas rendre le caractère détestable de cet acte. C'est pour ça qu'il faut absolument, cette religion doit l'étudier à jamais. On ne peut pas s'arrêter d'apprendre dans l'islam. On ne peut pas arrêter d'apprendre. On va étudier jusqu'à la mort. Comme la question a été posée à l'imam Ahmad. Parce qu'on a vu qu'il étudiait dans toutes les situations. Faqila lahu ila mata ya imam. Qala min al-mikbara ila al-mikbara. Normalement, on doit poser le but quand on nous amène au cimetière. Hala huwa al-asr. Cette religion, on doit l'apprendre. On doit l'étudier. Vous voyez que c'est complexe. Beaucoup de gens pensent que la bonne intention transforme l'acte. Et parmi les leçons que nous devons tirer de ce hadith, ya ikhwa, si une telle chose s'était produite à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si le diable avait réussi à dérouter des personnes qui étaient autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous autres? Ça, c'est à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de notre époque? Les mains yatasahaloun, fi hadhihi al-qadiyya. À ceux qui font de la complaisance dans la vérification de ceux de qui on se doit d'apprendre. Si à l'époque du prophète sallam, ce problème s'était déjà posé, comment pouvons-nous continuer à être complaisants? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-a'immata al-mudillin » Parmi les choses qui me font le plus peur pour vous, ce sont les savants égareurs qui délivrent les sentences juridiques qui n'ont aucun fondement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qala فأخبر أن الجهل داء. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que l'ignorance c'est la maladie, وأن شفاءه السؤال, et que son traitement, c'est-à-dire le traitement de cette maladie qui est l'ignorance, c'est le fait de poser la question à ceux qui connaissent, aux savants. فطريقة القرآن وطريقة السنة هي عرض المرض مع الإشارة إلى الدواء. Donc la voie du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle de l'exposition de la maladie, non, tout en indiquant son traitement. C'est pour ça que parmi les méthodologies des gens de la Sunna, c'est le fait d'exposer les maux, les maladies, tout en proposant leur traitement. C'est le fait de soulever les problèmes en proposant les solutions. Parce que quand vous soulevez un problème sans proposer de solution, vous n'avez pratiquement rien fait. Voyez-vous, si on nous avait juste parlé du COVID-19 comme ça, là, nous renseigner, nous dire comment ça tue les gens, ça rien nous dit par la suite. Qu'est-ce que ça aurait créé, la psychose? Allez, ça calme, allez, pour rien. Mais quand on parle d'une maladie, propose des voies et moyens permettant d'être à l'abri de cette maladie et les traitements à adopter en cas de adopté par celui qui a constaté la maladie. C'est ça la voie de la charia, hein? Et c'est la voie qu'a utilisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Subhanallah. Cette même question que je viens de poser, Cheikh Abdourazza, je me rappelle, c'est comme si je voyais le Cheikh devant moi reposer la même question. Qala lana, iza kana haza waqa'a fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fama baluna fi zamanina haza. Si telle chose s'était produite à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous autres aujourd'hui? Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui ont tué involontairement? Parce qu'ici, il ne faut même pas avoir de doute que ces personnes n'avaient pas l'intention de faire le mal. Au contraire, ils ont voulu faire le bien. Donner une sentence d'après eux qui s'accorde avec les textes de la révélation. Mais ils n'avaient pas de science requise pour cela. C'est pour ça que le prophète a dit, Allah sa'alou, alors qu'eux-mêmes, ils avaient été interrogés. Mais comme ils n'avaient pas de science requise pour délivrer la fatwa, le prophète a dit, Allah sa'alou, fayna jahilou. Ne leur incombait-il pas de poser la question à ceux qui savent? Parmi les leçons que nous tirons ici, c'est que si le musulman se trouve dans une situation compliquée, a besoin d'une sentence juridique sans trouver de savant, de personne à qui poser la question, il est encore préférable. Il est encore préférable qu'il fasse l'effort, son effort personnel, et qu'il adopte la position qui lui semble, hein, proche de la vérité, parmi les positions qui lui mettent à l'abri de la mort, par exemple, comme dans cette situation. Yani, si tu es dans une situation où tu ne trouves pas de savant, dans laquelle tu as besoin de connaître une sentence juridique, alors fais l'effort personnel. Ne pose pas la question à l'ignorant. Ne pose pas la question à l'ignorant. Fais l'effort personnel et dans ton effort personnel, essaie d'adopter la position qui te semble être proche de la vérité et qui te met à l'abri de la mort. Et parmi les leçons que nous devons de tirer ici également, c'est que il n'est pas permis de poser la question à celui qu'on a trouvé. Il n'est pas permis de poser la question à celui qu'on a trouvé. Mais on doit poser la question au savant, à celui qui connaît. Allah était clair et explicite. Posez la question aux gens de science. In kuntum la ta'alamun, si vous ignorez. Ne dites pas que je n'avais trouvé personne. C'est seulement lui que j'avais trouvé. Alors que tu sais qu'il n'entre pas dans la catégorie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de poser la question. Parce qu'en posant la question à ces derniers, tu commets un péché. Quand en posant la question à ce dernier, tu commets un péché. Parce que tu n'as pas fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Nous devons de faire attention et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'en était pris à ceux qui avaient délivré une fatwa qui ne reposait pas sur les fondements de la science, qui n'avait pas été délivré sur la base de la science et qui avait fait pour dégâts, hein, qui avait comme conséquence la mort à quelqu'un, à un croyant, qu'en est-il de celui qui délivre des fatwas, des sentences qui ne sont pas basées sur la science et qui sont la cause d'égarement des milliers, des centaines de musulmans. Hein? Lui, la conséquence ici, c'est qu'il est mort. Alhamdoulilah. Il n'est pas mort dans l'égarement. Ça ne l'a pas égaré. Ce n'est pas une fatwa qui a égaré, c'est lui qui est mort. Et malgré ça, le prophète s'en est prêt à eux. Et regardez comment le prophète s'en est fait. Adjaza min jinsi al-amal. Regardez l'invocation que le prophète sallam a fait. Il a fait l'invocation qui est de la nature de leur acte. Faman adalla al-muslimin fa ka'annahu nala da'wata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil idlal. Donc celui qui délivre les sentences qui sont à la base de l'égarement des croyants, c'est comme s'il s'exposait à une invocation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre sa propre personne. Parce que si on médite bien sur le hadith, ça veut dire que c'est lui qui a égaré, c'est comme si le prophète avait invoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'égare lui aussi. Ha'oula y katalu kala katalahumullah. Faka anna alladhi adalla yukalu lahu adallahullah. Donc, c'est lui qui égare, c'est comme s'il s'exposait à cette invocation de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah l'égare. Et méditez bien sur le hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yakbidu hada al-ilma intiza'an min sudurin nas, walakin yakbiduhu biqabdi arwahi al-ulama, hatta idha lam yabqa alimun. » Wa fi riwaya, hatta idha lam yabqi aliman, ittakhadha al-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu, fa'aftu, fadallu wa adallu. Dans ce hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala n'arrache pas cette science des cœurs, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est qu'il rappelle les savants vers lui. Le qabdi arwahi l'ulama, Allah subhanahu wa ta'ala reprend l'âme des savants, c'est-à-dire il meurt jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Et que les gens posent la question à ceux qui ne sont pas des savants. Fadallu wa adallu. Ici, le prophète sallam n'a plus donné leur réponse. Il s'est contenté d'attirer l'attention sur la cause de l'égarement. La cause de l'égarement, c'est qu'ils ont posé la question à ceux qui ne sont pas des savants. Ils ont posé la question aux ignorants. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب. لأن الأصل أن الرؤوس علماء. La base dans la charia, c'est que ceux qui sont à la tête des gens doivent être des savants. Pour gérer les gens sur la base de la science et du courage de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Quand il y a eu, jazakumullah khairan, quand il y a eu ce phénomène donc, quand il n'y a plus eu de savants, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris des guides. Hein? Des ignorants pour leur guide, pour leur modèle. Et par la suite, ils leur ont posé des questions. Qu'est-ce que ça a engendré? Fadallou, adallou. Le simple fait qu'ils ont posé des questions, quand le prophète a dit Fadallou, le simple fait qu'ils aient posé des questions aux ignorants, le prophète a dit Fadallou, ils se sont égarés. Ou adallou, ils ont égaré les autres. Pour bien comprendre ce hadith, n'attendez pas que les savants finissent. Non. Parce que ce hadith a quelque chose qui peut prêter à l'équivoque. Les gens peuvent penser que cela ne peut se produire que quand il n'y aura plus des savants. Non. Le prophète a exposé le problème. C'est le fait de poser la question aux ignorants. Ce n'est pas le simple, yani, ce n'est pas l'absence simple des savants. Ça veut dire que ceux qui posent la question aux ignorants, en présence des savants, de ceux qui ont étudié, sont pires que ces derniers. Parce que ce qui a conduit à l'égarement de ces derniers, c'est qu'au moins il n'y avait plus de savants. Et au moins il n'y avait plus de savants. Mais de nos jours, les gens se garent, les gens se perdent en présence des savants, des étudiants en sciences qui ont étudié chez les savants. Quelle est la pire des deux situations? La deuxième, Bilachak, c'est la situation de ceux qui posent la question aux ignorants en présence des savants, qui font recours aux gens qui ne sont pas connus pour avoir étudié, au détriment de ceux qui sont connus pour avoir étudié. Et subhanallah, c'est quelque chose de clair. Wallahi, on ne peut pas étudier sans que cela ne soit connu. On ne peut pas étudier sans que cela ne soit connu. C'est pour ça que je vous conseille, je recommande à ma propre personne ainsi qu'à vous autres, de ne jamais vous asseoir devant quelqu'un sans avoir posé trois questions qui vous permettent d'avoir le cœur net. Quand est-ce qu'il a étudié? Où? Chez qui? Si tu ne trouves pas la réponse à ces trois questions, ça crée un problème. Quand est-ce qu'il a étudié? Parce que quand quelqu'un va étudier, ça se connaît. Ça ne se cache pas. Et quand quelqu'un étudie chez les savants, ça se connaît. Parce qu'il n'étudie pas tout seul. Il a des camarades, il y a des informations qui circulent. C'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas la réponse à ces trois questions, sachez que vous êtes en train de vous exposer à l'égarement si vous vous asseyez chez quelqu'un. Et si on pouvait savoir comme ça, là, étudier et étudier sans que ça ne se sache, hein? Pourquoi n'étudions pas nous afin d'économiser l'argent que nous utilisons pour aller payer nos enfants à l'école? Pourquoi est-ce que nous allons payer nos enfants à l'école? Parce que nous voulons qu'ils soient suivis par des gens qui ont fait la formation. Subhanallah. Ayyuhuma aghla ad-din am ad-dunya. Vous faites ça pour ce qui est des biens éphémères de ce bas monde, mais quand c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'étudier de n'importe qui. De tous ceux qui prétendent être savants. De tous ceux qui prétendent faire la réforme. Qala Allah ta'ala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun, qala ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Laysa al-ibra bid-da'awa, al-ibra bil-haqiqati al-shar'iyya. Le plus important, ce n'est pas les prétentions. Chacun est libre de dire qu'il est salafi, qu'il est le lion de la sunna. Wallahi, hadha sahl. Dis ça de la parole comme ça, là, c'est trop facile. Lakinna al-haqiqa ya akhi. Il y a une balance sur laquelle on doit mesurer les choses. Les gens ont dit, et Allah nous a renseigné dans le Coran, lorsqu'on leur dit, ne faites plus la corruption sur terre, ils disent, qalu innama nahnu muslihun. Nous ne sommes que des réformateurs. Ils prétendent être des réformateurs. Donc, ce n'est pas tous ceux qui prétendent faire la réforme qui sont des réformateurs. Et ça confirme ce que j'ai dit auparavant. Est-ce que ceux qui prétendent faire la réforme ont forcément une mauvaise intention? Au contraire. Ils ont une bonne... Ils pensent. Eux-mêmes, ils pensent faire la réforme. Mais est-ce que ce qu'ils prétendent être la réforme s'accorde avec les textes de la révélation? Est-ce que ce qu'ils qualifient de réforme du point de vue islamique est la réforme? Qu'Allahu ta'ala, ala innahum humul mufsidun. N'est-il pas établi qu'ils sont des corrupteurs? Walakin la yash'urun. Mais cependant, ils ne se rendent même pas compte. فَقَدْ يَكُونُ الْإِنسَانُ جَاهِلًا وَلَا يَعْرِفُ أَنَّهُ جَاهِلٌ وَقَدْ يَكُونُ مُفْسِدًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ. Il se peut donc qu'une personne soit corrupteur sans s'en rendre compte. Il se peut qu'il soit ignorant sans s'en rendre compte. Malheureusement, le temps nous a rattrapés et on va essayer de respecter l'heure en nous arrêtant ici. Ala wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.